Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue là, c'est sérieux sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium, chez Seb au micro, je suis en compagnie de Richard. Ça va Richard?
Bonjour Seb, ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps. Et puis de Nolwenn, ça va Nolwenn?
Oui, bonsoir, ça va.
Ça va.
C'est qui le gars en face?
C'est Richard.
Oui, j'étais là avant vous.
D'accord.
Mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a un planning très chargé. On va se faire deux choses. Déjà, le deuxième épisode de Ninja City, la deuxième partie. Et puis, on va aussi avoir une interview de Mathilde Marlot, illustratrice de jeux de rôle et de littérature fantastique, qu'on a eu la chance de rencontrer à Cultissime il y a peu. Et tout ça, ça va s'enchaîner assez rapidement. Allez, je vous lance directement la partie de Ninja City et on se retrouve tout de suite après. Si ça se lance.
Vous avez trouvé quoi à l'arrière?
Il y a un frigo?
Ouais.
Ah la vache! Il y a deux cadavres?
Non, j'ai juste pris du frigo.
Non, mais là, tu l'as laissé ouvert.
Ah oui, c'est vrai.
Avec des tatouages.
Et qu'est-ce que c'est que toutes ces caisses et bombes?
Moi, c'est écrit dessus. Hein, ce sont, on va dire, des grosses batteries, mais des batteries électroniques, mais un peu grandes comme des cassettes vidéo, quoi.
Ouais.
Ça peut alimenter des gros ghetto blasters. Okay. Plutôt des sound systems.
Puis il n'y a que ça? Que des batteries?
Ouais, il y en a beaucoup. Et donc, deux corps dans le congélateur.
Identifié comme étant probablement les Yakuza. Hein.
Ouais, ouais.
Du gang de la tribu. Qui regarde là
Moi. Enfin, on était.
Fais-moi un test de stealth aussi.
Ah. Un test d'observation.
Voir s'ils sont toujours vivants.
Non.
Apparemment, il y a autre chose. Oh, 7. Je vois rien.
Rien de plus, non.
Oh là là.
Moi, je veux faire les poches des mecs évanouis. Hein. S'ils ont des pièces d'identité.
Ou... Ouais, alors ils n'ont pas de poche, ils n'ont pas de papier.
Ah d'accord. Bon.
Et donc ils ont des tenues, des genres de bleus de travail qui descendent un peu sous les genoux, des bottes. Ça sent le poisson, même leur.
Il y a tout qui sent le poisson.
C'est un drôle de pêcheur. C'est un vrai pêcheur de cravate.
Oh, c'est sûr, ouais.
Ils pêchent des carpes.
Ça nous renvoie chez Booba. Ouais. Ou le cauchemar des Smooth, ça dépend. Ouais.
Faudrait qu'on trouve l'adresse de cette boîte-là. On est sur les quais, ça se trouve, ils sont pas loin.
Ils seraient peut-être contents de récupérer leur camion.
Alors, est-ce qu'on regarde sur les docks s'il y a un truc qui correspond à la crevette à moustache, là?
Oui. Sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple
On regarde dans la boîte à gants.
Oui, c'est ce que je pensais, la boîte à gants aussi, c'est ce que je pensais.
T'as peut-être des papiers, effectivement.
Ouais, les papiers du camion, ça dirait.
C'est possible. Les papiers du camion.
Ouais, s'ils n'ont pas de papiers eux-mêmes, est-ce qu'ils se baladent avec les papiers du camion?
Mais si le camion est volé, par exemple.
Ouais.
La carte grise t'indique que le camion appartient à une entreprise qui s'appelle Top Hat Seafood.
Top Hat Seafood,
ok. Et effectivement, tu as une adresse aussi.
D'accord, bien sûr. C'est où?
Et c'est pas loin, c'est sur les docks, sur John Street.
Ta voiture un peu roulée, Roméo? Ouais,
difficilement.
De toute façon, on n'est pas loin à pied. Elle des balles, en fait.
Sur le côté.
Ouais, dans la carrosserie.
Tant qu'elle n'a pas de feu crevé, ça va.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Moi,
j'irai discrètement. Je pense qu'on a deux grosses options. C'est soit on y va sur cette adresse discrètement, soit on prend le camion, on se fait passer pour eux, en tout cas au départ, en termes d'approche. Après, rouler avec des cadavres à l'arrière d'un camion, si on se fait arrêter, on aura du mal à expliquer.
Mais c'était les leurs, les cadavres.
Mais est-ce que les policiers new-yorkais de 1984...
Si, on peut s'habiller comme ceux qui étaient dans le camion, au moins deux. Et les deux autres, ils suivent derrière. Pendant qu'on réfléchit à qui se déguise, je dessape le mec qui est derrière.
Ouais.
Faut aller prendre celui qui a le plus, peut-être en respect.
Ce sera pas
moi. Je fouille au passage. Leadership.
Pas de papier, mais...
Moi, j'ai 14.
Il a beaucoup de tatouages aussi. Notamment celui de la carpe.
Ah bon.
Et,
ils sont trop durs.
Il a aussi des cicatrices sur le ventre. Mais genre une grande cicatrice assez rectiligne.
Genre opération, quoi.
Ouais.
Ça serait pas un cyborg.
Pas une marque de katana.
Ouais. C'est celui qui a un bruit de métal ou...
Ça va être ding-ding.
Ouais.
Oulou. Cyborg Ninja contre-attaque. Je l'ai vu l'autre jour à la télé.
C'est vrai?
Ah, ça existe?
Non, mais dans le jeu. Je répare une télé chez un
client. Oui. Ouais.
En fait, ils volent des batteries pour pouvoir. Si ce sont des cyborgs, ils volent des batteries pour pouvoir.
C'est pour ça qu'ils sont aussi costauds.
Ah, peut-être que ceux dans le frigo, ils sont aussi. Non, ils sont.
Ah, oui, puis les décors, en fait.
Oui, puis qui se.
Et puis les décors des Yakuza. On est tombé sur quoi, des extraterrestres, quoi.
Il pique les enveloppes.
Donc il y a des enveloppes corporelles, il y a des batteries, il y a peut-être des robots.
Honnête.
Alors la question c'est, est-ce qu'on va oser ouvrir le torse du bonhomme pour regarder dedans?
Est-ce que vous avez ce qu'il faut déjà dans vos outils? Hein,
j'ai
un katana.
Ah oui, c'est vrai, t'as deux katanas.
Non, j'ai fait ninja pour tuer des gens, mais là je le sens pas. Ah pardon, j'ai dit ma motivation.
Je voulais pas demander au début, mais maintenant on le sait. Mmh.
Ou alors on peut dire, si vous l'ouvrez, c'est vous qui nettoyez.
Il y aura de l'huile partout.
Moi, je cochonne pour déguiser en eux.
Ouais, d'accord.
En vrai, la salopette bleue, déjà, il faut les ligoter pour pas qu'ils se réveillent quand même et
ouais,
qu'ils reprennent leur.
Tu mets ta salopette par-dessus ta tenue ninja, voilà. En fait. Ça, c'est la classe quand même.
Vous les ligoter.
Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Avec des
câbles électriques. C'est vraiment serré, ouais. Parce qu'on sait qu'ils sont costauds, donc. Ouais.
Mm. Ouais, on va dire qu'il y avait aussi des câbles électriques dans le camion.
Ouais,
ils sont
ça,
bien
ouais.
Tranquilles.
Bon, on les laisse à l'arrière du camion et puis.
On s'habille alors.
Ouais, vous, mmh. Alors vous deux vous habillez.
Ouais.
Ouais.
Et nous qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le camion, on suit de loin avec la Lamborghini.
Bah, si
on
roule avec le camion, moi je reste dans le camion.
Ouais.
Ouais. Bon, le mal que j'ai eu à y rentrer.
Ouais, c'est vrai. Mais par contre, moi je garde les clés de la Lamborghini sur moi, je la laisse là, sur les quais.
Déjà que tu vas sûrement retrouver en pièces détachées. Ah, ouais.
C'est mon avocat qui est encore.
Tu peux aussi les suivre en Lamborghini.
Non, mais là, je vais faire. Vous avez tous raison, il faut qu'on soit le plus discret possible. On se met à l'arrière. Comme ça, on pourra surveiller les deux zigotos s'ils se réveillent.
Bon, vous connaissez peut-être un petit peu le coin.
Ouais, on roule jusque là-bas.
Vous avez l'adresse. Et vous arrivez devant un genre de grand entrepôt. On est sur les docks de Red Hook. Et donc c'est un entrepôt avec de la brique rouge mais aussi quelques vitres. L'arrière donne directement sur la Hudson River, enfin sur la baie de New York. Et puis autour, y a un grand grillage qui doit faire à peu près 5 mètres de haut. Et puis une petite guitoune aussi à l'entrée, avec une barrière. Elle est allumée d'ailleurs.
Ah.
Vous voyez un gros pépère en casquette, il regarde et tout. Il ouvre la barrière.
Je sais pas, il vient de se sauver la ville tout seul.
Il y a un autre camion un peu identique qui est garé dans un coin. Puis sinon, sur le parking, l'air d'être le parking des employés, il y a deux voitures.
C'est toi qui conduis sur
le je vais jusqu'au quai de déchargement. Il livre la marchandise. Ouais.
Donc,
je m'arrête au quai. Il y a des gens, je vois.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent
Non, mais il n'y avait pas de gens sur le quai, mais quand vous arrivez, peut-être alerté d'ailleurs par le gardien, une grande porte de hangar s'ouvre. Et donc là, il y a deux personnes qui sortent.
J'ai l'impression qu'ils t'attendent.
Ils ressemblent pas mal aux deux que vous avez déjà assommés, ligotés.
Super.
Le hangar est allumé.
Je roule jusqu'au bout, dans le hangar avec le camion.
Tu peux pas rentrer avec le camion, t'as des marches, mais ils vous attendent sur un quai de déchargement.
Faut que tu fasses une marche arrière.
Ouais, bah c'est
le cul du camion.
Voilà, je vais jusqu'à eux en présentant le cul du camion, en disant salut les gars, puis je suis bon en respect.
Ok.
Salut, c'est nous.
Moi j'ai pris le flingue.
Qu'est-ce qu'on fait?
On a ton ferme.
On se cache derrière la caisse ou on sort comme.
On planque le mec qui est assommé avec son flingue et on se planque nous.
Ouais.
Vous avez deux mecs.
Deux mecs qui derrière.
Sont... Mmh. Après,
il y a peut-être beaucoup de caisses, je sais pas.
On peut se planquer derrière les caisses avec les corps des mecs.
Ouais.
Ok, bon.
De toute façon, même si on peut
après,
pas.
Après, s'ils déchargent.
On est sur le dessus.
Ouais, mais ça vous laissera le temps de prendre l'initiative, vous deux.
C'est à vous de prendre par surprise.
Je peux m'accrocher au plafond.
Ouais, tout à fait.
C'est comme ça, mais la tête
toutes les nuits j'en ai chez moi ces temps-ci, je suis obligé de les écraser.
C'est la voix du singe, mais il va encore falloir dépenser peut-être un point.
Je dépense tout. Mais
bon. Un point N. Quand même, réussir un test d'agilité, je dirais, difficulté 8, quoi.
Je pense que
t'as peut-être de quoi t'accrocher.
Mais non.
Il y aura quelques prises.
15.
Mais donc, c'est un problème, tu es accroché au plafond.
C'est que s'il commence à décharger et qu'il s'éloigne, au moment où ils me font dos, en fait, j'essaie de me sortir très discrètement du camion et de me cacher dans un coin obscur pour être capable d'observer mais de ne pas être vu. C'est-à-dire que je peux me laisser glisser le long du quai et puis là, en contrebas, ils ont déjà plus de mal à me voir.
Ils ouvrent la porte, alors ils ouvrent le haillon du camion.
Donc là, on est bien cachés.
Vous êtes cachés tous les deux et ils commencent par prendre le congélo.
Évidemment.
Ça roule. Donc là, ils sortent tous les deux.
Ouais, s'il n'y a plus personne et qu'il est au fond d'eau, c'est à ce moment-là que je me faufile à l'extérieur.
Pareil.
Moi, je sors et puis je tente de me faire passer pour le gars. Je suis bon en respect. Je joue.
Tu fais semblant de prendre une pause ou
Bah, je m'approche pas trop près d'eux quand même, mais je leur fais un petit signe.
Ok. Bon, ils ont pas l'air trop de te calculer. Alors, tu vas me faire un test de stealth. Voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ah. Il y avait que ces, tu vois, que ces deux personnes. Mm-hmm. Donc, ils se dirigent vers l'intérieur du hangar. Mm-hmm. Dans le hangar, tu as des chaînes de, sur lesquelles on faisait glisser des choses.
Oui, les chaînes logistiques. Oui. Mm-hmm.
Les chaînes logistiques, mm-hmm. exactement. Et tu vois plus loin, alors ce sera plus vers l'autre côté. Là, tu as des bureaux à l'étage. Probablement. Mmh. Et puis dans ce hangar, il y a un genre de grande tente blanche au milieu, un peu forme rectangulaire.
Ouh là là.
Là, tu vois pas ce qui se passe.
Ça sent la zone mortuaire. Mmh. L'atelier de découpe.
Ouais. Est-ce que je peux m'approcher discrètement ou...
Ouais, les gars, pour le moment, te calculent pas. Ils sont en train d'emmener le congélateur vers cet endroit.
Ok. Donc je peux les suivre discrètement.
Oui, ils font pas trop attention à.
Ouais, bah je peux peut-être essayer d'aller voir ce qu'il y a dans la tente. Parce qu'elle est fermée, la tente.
Oui, effectivement, tu vois pas ce qu'il y a dans la tente. Mmh.
Moi, je la suis un peu.
Moi, ouais, tu t'approches, je vais faire pareil.
Je vais suivre.
En parallèle, j'essaie d'avancer vers la tente. Mais tout en restant très discret.
Tout en restant discret. Ouais.
Une convergence pareil. De gens discrets. On va avancer les deux ou...
Oui, tu peux, ouais.
18 plus 2, 20. Alors là, je passe à travers.
Non, mais toi, t'as pas besoin, tu vas un peu franco.
De toute façon, j'ai la salopette. Toi, ils t'ont calculé, nous, ils ne calculent pas.
Ouais. Petit bambou.
Je vais avancer discrètement aussi.
Et puis, tu as toujours la mitraillette à la main, c'est ça?
Oui.
Tu as toujours la mitraillette à la main.
Donc là, par contre, vous êtes dans le hangar, c'est plutôt ambiance blanche. Hein.
Ouf. Oh,
alors, on fait aucune de mes mesures.
J'arrive à un moment, les mecs changent le regard des hommes, ils ne me voient pas.
De toute façon, ici, c'est un.
Par contre, vous avez toujours vos tenues noires.
Mais c'est un ninja blanc, lui, tout d'un coup.
Tu me vois plus. Tu me vois.
Ouais. Vous n'avez pas une doublure blanche à l'intérieur de votre
tenue? Ouais, si ça se trouve, oui, comme il est.
Je ne sais pas si ça se fait, ça.
Ça devait exister. Mmh.
Bah, quand t'es ninja dans la neige, c'est mieux, ouais.
Mmh. Mais c'est ça.
Dans cette tente, tout à coup, retentit le son d'un genre de scie. Oh. Ça vous rappelle peut-être quand vous allez chez le dentiste, mais...
Mais en plus fort.
Ça résonne dans le hangar. Donc les deux gars poussent le congélo... À côté des autres, ils l'ouvrent, jettent un œil, paf, ils referment et ils reviennent vers l'entrée du hangar.
Ils m'approchent de l'un d'eux et. Alors,
ils vont passer à côté de ces.
Je pense
chaînes logistiques.
Ils ont le cou derrière la nuque.
Ah ouais. T'attends qu'ils te dépassent. Ok.
Fulgurant, furtif.
Donc, par contre, ils sont deux quasiment l'un à côté de l'autre.
Ah ouais, il a deux bras, c'est bon.
Est-ce que je peux faire un jet de wisdom pour changer d'avis parce que j'allais vers la tente et puis que je le vois faire ça et je me dis il va les attaquer, il faut que je l'aide. Est-ce que je peux faire un jet de wisdom?
Non, mais t'as pas besoin d'un wisdom pour ça.
D'accord, très bien. Là, je me dis et là, il y va tout seul, il faut que je l'aide quoi.
Je suis.
Donc j'essaie de courir pour rattraper, pour attaquer le deuxième.
Bon, allez.
C'est pas certain que
la crevette pistolero.
Puis t'avais fait un critique sur ton jet de furtivité, donc t'as l'initiative.
17. Ah.
Ça touche.
Combien de dégâts en dé?
C'est toujours un D4. 4. Et le deuxième coup, c'est sur le même ou. Ou c'est sur l'autre?
Ça dépend.
T'as raté?
Je fais 1.
Oh là là, ouais.
C'est une maladresse.
J'en fais tomber un comme ça, puis je regarde l'autre. Ouais.
Oups. Alors, on va quand même tirer ça sur la table des maladresses.
Oh, il y a une table des maladresses.
Oui, dans DCC, il y a une table des maladresses. Et là, en combat, ça pardonne pas. Puis c'est modifié par la chance et ton modif de force. T'es à combien là? T'es à moins 1. Tu me lances un D16.
1 plus 1, 2.
Vous trébuchez.
Ah non, mais voilà. Je suis content, j'ai fait un échec critique, je recommence. Hein.
Mais vous pouvez vous rattraper si vous réussissez un jet de sauvegarde de réflexe, difficulté 10.
Il y avait déjà juste une chance sur 400
de faire de l'agilité. C'est un test d'agilité.
15.
Tu te rattrapes peut-être 700. C'est un peu poisseux d'ailleurs le tapis roulant là.
C'est un peu rouge.
Bon, par contre, t'es repéré.
Oups.
C'est celui qui n'a pas qui n'a pas pris ton coup, qui va agir. Ils ont pas d'armes. Et il essaie de te donner un coup de poing et il se rate. À toi d'agir.
Je fais peur. Eh ben
Il est surpris.
Donc je suis en train de me précipiter vers lui. Donc ouais. Celui qui t'a attaqué, là, que t'as pas frappé, je vais lui faire un balayage des jambes, peut-être dans le mouvement. Je me baisse sur le genou, puis hop, je fais un balayage.
Bon, alors la force, voix du tigre peut-être.
Je sais pas. Je suis pas si dur que ça de faire un balayage.
Allez, ok. Bon, fais-nous un test d'offense.
Je suis pas très bon d'offense. 2 moins 1, 1. Parfait.
Voilà. Petit balayage.
Peut-être que j'aurais dû faire la voix du tigre. Donc là, j'ai dû me casser un genou, je pense. Ou alors quand j'ai fait le balayage, j'avais pas vu qu'il y avait un poteau en métal entre lui et ma jambe. C'est peut-être ça, en fait.
Bon, t'as donné mal à l'adresse.
J'ai une larme qui est en train de couler le long de la joue.
T'attaquais celui qui s'était déjà pris un coup.
Non, l'autre, justement. Ouais. C'est
en plus. Il y a de la chance, lui.
On lui a raté son coup. Par contre, celui qui s'est pris un coup, il va essayer de te frapper. Toi, petit bambou. Et ça marche.
On va taper petit bambou brisé bientôt. Oh ah oui, ben voilà.
Ah ouais, 5 ouais. points de dégâts.
5 points sur un des 4, comment ils font?
Non, mais il a un des 5, lui.
C'est méchant.
Il tape très fort.
Force surhumaine.
Attention. Mmh.
Bah, c'est un robot. Hein.
Je vais pas bien.
Il te reste combien?
Il te reste un.
Moi, j'ai mes poignards.
Ouais. Ah ouais. Eh ben, il t'a cogné, paf. Et tu te cognes.
Pourquoi on les tue pas avec une mitraillette?
Contre cette table.
Parce qu'on voulait faire ça.
C'est vrai que je vous rappelle que vous avez des armes.
Ouais. Je peux tirer à l'arc là.
Oui, tout à fait.
Ouais, j'ai mes poignards, moi. Je vais essayer de.
Ok, allez, rentrez dans le combat.
Allez, je tire sur.
Non, mais sur eux. Non, pas sur nous. Pas sur...
Non, pas sur vous.
Mais... Pas celui qui est pas.
Je sais pas si je tire sur celui qui est pas encore blessé ou celui qui s'est remis, qui vous a concassé.
Ouais, par contre, t'es à peut-être une quinzaine de mètres.
Bon, hein. Bon, ça va.
Comme alors, ça. Allez, ok.
18 mètres. Hein.
Ouais, ok. Donc, c'était un jet d'offense, mais c'était modifié aussi par le niveau, il me semble. Attaque à distance.
4.
Bah c'est mieux que nous.
La flèche hein. Passe complètement à côté.
Ouais, tu m'étonnes.
T'entends, aïe. Bah moi, je lance mes poignards.
Ouais, ok.
Bah sur celui qui est déjà blessé, j'essaie de le viser.
T'avais plus 2, toi, en attaque à distance, non?
Dans les articulations, okay. Les épaules.
Tac.
C'est très en plus, hein, j'ai...
Oh bah ouais,
12.
Ça touche.
Ah voilà.
Ce petit poignard, tu lui as logé dans l'épaule, c'est
ouais,
ça?
Ouais, ça va le...
T'as
dû taper ah ouais, pas de poil dans l'air.
Oh, enfin, merci.
Ça va l'empêcher comme ça de taper.
C'est l'autre, celui qui n'a pas été blessé, qui agit et qui va te taper dessus, ouais, qui nous araigne.
Ouais, à force de se rater.
Coup critique.
Ne me tuez pas, j'ai voté régal.
Tu es inconscient.
Mais merde, bah, ça, c'est... j'étais inconscient de l'attaquer, ça c'est sûr. On n'a pas les mitraillettes.
C'est sûr qu'on est une fois sur deux des bons jets de dés.
Elles sont restées dans le camion,
soir,
je pense.
N'importe quoi. Merde. Qui n'a pas fait demain ce soir?
Je crois que j'en ai un en moi.
Ils ont
une pistolet mitrailleur, tant qu'à faire. Mais j'avais récupéré
c'est lui qui l'a récupéré dans le camion.
Il s'est juste baladé avec son utilité.
En fait, il est trop mal avec depuis tout à l'heure.
Là, tu te dis que bon.
Le code du ninja.
Quitte à faire du bruit pour que ce soit pas nos os qui craquent.
Parce que là. Toujours des vins?
Ouais, alors là, par contre, t'es juste à côté de lui. Alors tu tires sur lequel? Celui qui est déjà blessé ou celui qui vient de, d'assommer?
Tu sais, je...
Oui, ah, les deux.
Vu que je suis
oui,
parfait,
pourquoi hein. Pas.
Oui, on va pas toucher.
7.
Le KD24.
Une rafale qui part complètement dans le building.
Oui, mais genre fait peur, du coup, quand même.
Ouais. Ils ont pas l'air d'avoir peur.
Mais est-ce qu'il a un deuxième coup? Est-ce qu'il
est déjà... Non, parce qu'on considère que c'est une attaque à distance.
Ouais. Ah, c'est qu'il est attaqué.
C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il s'attaque à distance.
Il aurait dû frapper avec.
Ouais, un grand coup, ouais.
Un coup de crosse.
Mais il reste à bombe, en fait. Hein.
Tu peux essayer au tir à l'arc.
Oui. Ouais. Alors, vous avez un collègue qui est probablement en train de pisser du sang là.
Ouais. Ah, ouais, bon, vas-y.
Il est conscient.
Ça va. J'étais en noir.
On attaque à distance. Mmh.
Ouais.
Non, j'ai une dernière volonté avant de mourir. Je voudrais que vous vendiez toutes mes actions
sur
cet instrument.
Ah, oui, ça touche. Tu fais un D6 de dégâts.
Bah, tu vois, ils vont être blessés. Hein.
Oh. Bah, oh. Ouais. Je t'ai mis.
Non, mais à force,
salut.
On va arriver.
Et fleurs, l'oreille. Je pense que ça fait tomber.
La pêche, il y a un côté, c'était pas à l'avant.
Ouais.
Il y a eu du bruit quand même, il y a eu du pistolet mitrailleur. Et à ce moment-là, on va dire, la toile de tente s'ouvre.
Mmh. Mmh. Il y a 25 qui sortent.
Les docteurs Frankenstein. Mmh.
Plutôt, ouais. Il y a une personne qui sort de là. Effectivement, il a une blouse blanche, mais plutôt bien tachée de sang quand même. Mmh. Le crâne plutôt dégarni, et effectivement quelques touches de cheveux un peu comme ça. Voilà, un peu professeur foufou si on veut. La scie circulaire que vous entendiez, il ne la tient pas dans la main, elle est greffée sur son bras. Mmh. 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 Oui, comme ça.
Il y a des moments, on est content d'être inconscient.
Mais trop près, c'est toi, pas bien non plus.
Il vous regarde, il regarde la scène, là, se fige un peu. T'as l'impression que ses jambes s'allongent. Mmh. D'ailleurs, vous entendez probablement un genre de mécanisme. Il gagne un mètre comme ça. Et il arrive vers vous.
Il a mal dit, l'inspecteur Gadget. Ouais.
Peut-être mes vannes, là.
Celui qui était quand même mal en point va essayer de t'étrangler. T'as combien en armor class?
Pas très bon signe ce genre de
10. Hein. Ouais, il te chope.
Comment on est arrivé là? Comment la situation
peut s'échapper à ce point? Vous êtes allé trop près.
Il t'a étranglé.
Comment on va faire?
Tu tombes inconscient.
Je peux pas utiliser un point de ninja pour me dégager un point de tigre? Enfin, voie du tigre pour me
faire un autre fait d'armes, il n'y a plus.
Non, on n'a pas ça. Seuls les autres peuvent te sauver. Seuls les autres. Ouais, mais sont conscients.
Pas toi, du coup.
Non. Je vais faire un autre fait d'armes, je vais essayer de calmer le mec fou avec sa scie. Ça va faire un 10.
Tu peux dépenser 2 points de chance.
Ouais, bah 2 points de chance.
Ça touche. Tu visais qui?
Le fou là, avec sa scie.
Ah oui, d'accord.
On va emmêler mes nunchaku sur sa scie, le faire tomber. Tu vas voir, je vais faire un 6. Il va se calmer.
5,
c'est pas mal.
Pas mal.
Ouais, il s'est bien rétabli sur le sol. Il s'est même claqué les dents.
Ok, donc tu lui as tiré dans les jambes. Mm. Alors, en fait, le nunchaku a dû se coincer dans un truc. Ça fait pas un bruit sourd, c'est un peu. Et effectivement, ça le déséquilibre.
Ah voilà. Yes.
Il tombe. Mais on entend toujours sa scie circulaire qui tourne. Ouais.
Ah non, parce que ça devenait vraiment compliqué.
13.
Mais tu faisais quoi?
Je tirais sur le gars avec mon arc. Ah pardon, celui de la scie.
Professeur Folding.
Ouais. Ouais, ok. Ça fait combien de dégâts?
Finalement,
vous vous débrouillez
mieux. Oh non.
Hein? Parce que t'arrives à lui planter une petite flèche.
T'as fait 1, t'as fait 2, puis t'as fait 1. Tout ça avec un D6.
Ouais. Ouais. Ça aurait pu être avec
en
un
D6. Il était plus grand que vous, il est à terre. Ouais. C'est plus dur de le viser, là, je pense.
Ouais, ouais. On va dire ça.
Ça se plante quand même quelque part. Mais c'est Roméo qui agit en premier.
Oui, bah moi je me précipite en courant avec mes nunchaku pour aller taper au moins 2 fois.
On l'a dit, il fallait pas
le très blessé.
On l'avait dit, pardon.
Corps à corps, dangereux.
Ouais, mais là, il est très blessé depuis le temps. Celui qui était le plus blessé.
Nous, on était
et puis
à
j'ai plus 2 en attaque avec l'arme.
Ok, donc tu vas corps frapper corps, au corps à corps.
Ouais, j'ai le droit à 2 coups.
Ouais, ouais, c'est vrai. Allez, vas-y.
Pile à des
échec critique.
J'allais dire, normalement, il a des meilleurs jeux de dés, mais des jets de dés.
Allez, une maladresse.
Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Autant de 1.
Tout à l'heure, on avait dit un D16 modifié par. T'en es où en Ninja Force?
5.
J'imagine Ninja qui se prend les pieds dans ses nunchaku.
C'est clair, ouais.
On n'est pas les meilleurs.
Non, je vais pas les.
J'entends un très beau merde comme ça, par contre, qui se passe.
T'as fait combien?
On peut aller continuer l'entraînement, on lieu d'essayer d'attendre.
Tu lances un D16. Ça va être un D16 au moins.
10.
Vous frappez par inadvertance un de vos alliés à portée. Déterminé aléatoirement, bah, ça, ils sont déjà par terre.
Oui, bah, après, ça peut être prévu.
C'est pas très grave.
De toute façon, ils sont déjà inconscients et quasi morts.
Ouais, voilà.
Donc, je pense que.
Ça va pour vous faire grandir.
Surtout lui. Hein.
Non, on peut se réveiller des fois le matin comme ça, avec des bleus, on sait pas pourquoi.
J'ai le droit par contre, si tu t'en sors, t'auras peut-être une cicatrice à vie d'un nunchaku.
J'ai le droit à un autre coup.
T'as le droit à un autre coup, ouais.
Non, pas le même genre de coup. Là, c'est pas terrible. Allez,
5 et 1, 6.
Vous allez tous mourir. Hein.
Aussi, ça pouvait se passer vite.
Après, t'as peut-être les clés du camion. T'as dû peut-être repartir.
Ouais, bon. Enfin, je pense que je vais devoir m'approcher.
Le savant fou, on peut dire, se relève de toute sa hauteur pendant ce temps-là. Celui qui était très mal aussi se relève. Et c'est lui que tu viens d'essayer de frapper. Mmh. Oh, il se rate complètement aussi. Je pense
qu'il
se casse la goule. Et c'est à Ebombe d'agir.
Il a fait une attaque profonde.
Je trouver un truc un peu radical.
Tu peux pas continuer comme ça, tu vas faire un 20, c'est sûr.
Oui.
Ouais. Je réessaye le tir à l'arc alors.
Le tir à l'arc. Quand je pense que je vous ai distribué des armes.
12.
Ça touche, c'était qui?
Le gars à la tronçonneuse, toujours.
Tu fais combien de dégâts?
5.
Ça va.
Wow.
Ouais. On va se jeter des dégâts qui dans tes 3 jets.
Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a cumulé. Un chaque fois, ouais.
Je pense que cette fois, cette flèche, c'est...
ne nous dévalorise pas.
Elle a dû se pointer dans le bras qui est juste au-dessus de cette scie circulaire. Il est encore debout et continue d'avancer vers vous. Et c'est à Roméo d'agir à nouveau.
Et à chaque fois que
moi je vais attaquer Roméo, je vais attaquer la scie. Là.
De générique des Tortues Ninja.
Attention à
17.
Superbe.
Après, t'as un deuxième coup.
Ah, il est mort.
Ouais.
Mmh. Ah, voilà, c'est bien. Mais t'as un deuxième coup.
Je pense que c'est un deuxième langue dans son front.
Tu vois, on l'a vu. Comme les deux autres, ils sont bien amochés, c'est du gâteau. Il y en a un qui a une pénalité en plus.
Alors, quand ils voient ça, ils sont complètement désorientés.
Ouais, bah voilà.
Ouais, faut les
ils arrêtent de vous taper dessus et ils restent hagards.
Donc.
Quand un ninja perd tous ses points de vie, ce qui est arrivé.
Hein. Du sang.
Alors, le clan a des choix. Un autre ninja peut passer autant de points de vie qu'il veut pour ranimer son frère ou sœur ninja tombé au combat.
Moi, j'en
par contre, 8. Les vies des deux ninjas seront
liées.
Exactement. Mmh. Et les dommages faits à l'un seront sentis par l'autre.
Oh. Mmh.
La seule façon ensuite de délier les vies de ces deux ninjas, c'est votre sensei. Qui peut le faire par un rituel magique.
D'accord.
Voilà.
C'est mort.
Un ninja qui arrive à zéro point de vie peut aussi choisir d'embrasser l'obscurité. Pour faire un peu des tests de discipline pour pas devenir complètement berserk.
Bah, je pense que je vais faire ça, Alexander. Il va embrasser le côté noir. Je pense que c'est son destin.
Un ninja peut aussi choisir de partir, mais de transférer son énergie
non, c'est pas le genre d'exemple.
Dans un objet ou alors à tout l'univers.
Ouais, carrément.
Et il distribue ainsi ses points de ninja aux autres ninjas qui sont autour
mal.
De lui.
C'est pas mal. Bah, j'ai embrassé la
Et tu peux continuer à jouer cet objet dans les prochaines parties.
Mmh. C'est circulaire.
Ah, c'est une onde de lancer.
C'est vous êtes réunis pour célébrer le départ d'Ash Williams.
C'est un vrai pote, mais grâce à lui, moi, je suis pas tout à fait mort. Je suis pas tout à fait vivant non plus, d'ailleurs.
Ouais, moi, il m'a sauvé la vie parce qu'il était toujours au contact, tandis que moi, j'étais plus en retrait.
On va quand même lancer un D20 pour voir en quoi il s'est réincarné.
J'ai fait 17.
Dans des herbes hallucinogènes.
Comme ça qu'on les fumera, on le reverra.
H, je crois que Alexandre voit que fumer.
H.
C'est un nom prédestiné.
Ouais. On pourrait faire des petits sticks d'encens avec les cendres de H.
Alors, c'est qui va lancer les cendres? On tient l'urne tous ensemble et on la verse au-dessus du Brooklyn Bridge. Mm. On fait comme ça. Je me suis garé sur le pont en troisième file. J'espère que.
Il est poussé d'ailleurs.
J'espère que les New York City Cops vont pas venir nous embêter, mais bon. Allez, on va pour 5 minutes. Ouais. Bon, après, ma Lamborghini a commencé à être connue, quoi.
Bon, on peut dire que New York a perdu un ninja et un bon réparateur télé aussi.
Ouais, New York a perdu un sacré ninja, ouais. C'est le plus tête brûlée d'entre nous.
Oui.
Ce qui explique peut-être cela aussi d'ailleurs.
Ouais. Il s'est brûlé.
Il s'est brûlé. Il a vécu comme une comète.
Mais les New Yorkais vont pouvoir dormir plus en sécurité ce soir.
Aussi.
Oui, parce qu'il est mort déjà aussi.
Vous êtes méchant. Je vais vous hanter pendant très longtemps. Ouais.
Mais c'est un peu grâce à lui que je suis là et je suis revenu et par les chemins du côté obscur, c'est sûr. Mais après tout, moi, comme je suis trader, personne ne verra la différence. Salut, H.
D'écouter Ninja City, l'épisode 2. Ouais, j'ai dit Nolou et Richard qui sont en train de faire les ninjas dans le studio. Ninja City, animé, monté, musicalisé par Romain, que vous pouvez retrouver avec grand plaisir dans l'émission Imaginaire de 21h à 22h le mardi. Donc vous restez là et puis vous écoutez demain, ce sera pas mal. Je vous propose d'écouter l'interview de Mathilde Marlot qu'on a eu la chance et le grand plaisir de rencontrer à Cultissime. Et puis on se retrouve peut-être tout de suite après. Un petit mot avant que... Parce que je vais monter vos micros et vous faites des soins.
on fait les zozos à côté, désolé.
Pas de souci. Allez, à tout à l'heure.
Bonjour à tous, je suis Sébastien, je suis en direct de Cultissime, la deuxième édition, le festival international des BD cultes. Je suis en compagnie de Mathilde Marlot. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et on va parler d'illustration, illustration d'imaginaire, de jeux de rôle et peut-être un peu plus parce que tu ne fais pas que de l'illustration de jeux de rôle.
Oui.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours, comment t'en es arrivé à l'illustration ?
Alors c'est une très longue histoire parce que depuis toute petite c'est un rêve, j'ai envie de faire de l'illustration. Je suis passée par plein de phases, il y a eu des moments où j'avais envie d'être styliste dans le costume, j'ai eu envie d'être animatrice aussi pour le cinéma, travailler dans les effets spéciaux. Et tout ça, bon, ça demande pas mal d'investissement au niveau études, ce que je n'avais pas. Et j'ai fait un petit parcours artistique, mais sans plus. Je dis souvent que je suis autodidacte parce qu'en réalité, je me suis formée toute seule. Et je suis arrivée dans l'illustration de jeux de rôle, en fait, en 2018, grâce à Casus Belli. Parce que Thomas Bergeron, qui travaillait pour le magazine à l'époque, avait vu mes illustrations sur Facebook. Parce que je faisais surtout l'illustration jeunesse et tout, mais un peu d'illustration fantasy aussi. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à... dans l'avantage avec le magazine Casus Belli, c'est que plein de rôlistes et d'éditeurs de jeux de rôle le consultent. Et donc, ça m'a servi de vitrine. Et c'est comme ça que j'ai fini par travailler pour plusieurs éditeurs. Et le jeu de rôle, comme il est toujours un peu... parents de la fantaisie, enfin même pas un peu, carrément.
Complètement, ouais.
Voilà, c'est comme ça que le bouche à oreille a fait son effet et ensuite je me suis retrouvée à travailler pour Bragelonne, un éditeur pour lequel je travaille toujours avec plaisir.
De ce que tu dis au départ, surtout de la création, parce que le styliste, effets spéciaux, c'est des choses qui donnent envie de faire
oui,
de créer.
Ouais. Y a un fil rouge en fait quand même dans mon travail, c'est le fantastique, l'horreur, tout ce qui est... mes thèmes de prédilection, ça va vraiment être l'horreur, tout ce qui est organique, crado. Ça j'adore, les créatures, les monstres et tout ça. Mais au départ, je me destinais plus à l'illustration jeunesse parce que j'aime les contes depuis que je suis enfant. Et donc, on peut dire que je suis touche à tout parce que j'ai pas de choses qui m'attirent pas spécifiquement. J'aime bien pouvoir être caméléon et passer d'un style à un autre, d'un univers à un autre. C'est plus, on s'ennuie pas quoi.
Il y a un peu de crado en jeunesse, c'est souvent pas le même type de crado.
Non.
Mais tu fais quand même un peu de jeunesse ou vraiment pas ?
J'en fais plus, non. Bah non, parce que les expériences que tu vas avoir en édition vont te créer un book. Donc si tu fais pas de jeunesse, les gens vont pas avoir de jeunesse et dans leur tête, ils vont pas se dire que tu fais du jeunesse. C'est pas évident en fait. Enfin. Les éditeurs, c'est comme les gens, ils ont besoin de te mettre dans des cases. Et donc, si j'illustre, comme là, ce que je suis venue dédicacer, le Witcher et tout, avec des créatures, des cicatrices, des balafrés, des potions, des trucs un peu violents et tout ça, ça va pas venir en tête aux gens que je peux aussi faire des trucs tout kawaii, tout mignon, quoi.
C'est vrai que ça peut être un problème. Et t'as pas l'impression que ça t'enferme dans un style ?
Non, parce que j'ai toujours travaillé à ne jamais être enfermée, justement, dans un seul style. Et c'est bien parce qu'en discutant avec les gens, on peut aussi faire en sorte de faire savoir qu'on ne fait pas qu'un truc. Par exemple, c'est tout bête, mais en illustrant le jeu de rôle, c'est souvent du noir et blanc qui est demandé pour des raisons économiques, parce que c'est payé moins cher que la couleur. Alors qu'en ce qui me concerne, je ne mets pas moins de temps à faire une illustration noir et blanc qu'une illustration couleur. Mais ça, c'est autre chose. Eh bien, beaucoup d'éditeurs étaient convaincus que je ne travaillais qu'en noir et blanc. Alors que, logiquement, tout illustrateur peut travailler autant en noir et blanc qu'en couleur. Mais on est enfermé dans des cases, souvent comme ça.
Et en plus, tu as un trait qui est très précis, très détaillé.
Oui.
En noir et blanc, est-ce qu'on ne perd pas justement au passage à la couleur un peu de détail ?
Non, parce qu'au final, la technique que j'utilise, qui est souvent aquarelle ou gouache, rehaussée de crayon de couleur, au final, le crayon de couleur, il va avoir le même rendu... c'est la même impression crayonnée qu'on a à la fin. Et puis, j'aime bien travailler dans les détails, dans la précision, et c'est pas différent. Enfin, à mes yeux, en tout cas, peut-être que tout le monde serait pas d'accord, mais je trouve pas qu'il y ait de différence au niveau rendu.
Tu as travaillé du coup pour le jeu de rôle, pour l'imaginaire. Mm-hmm. On en discutait un petit peu avant l'interview. Tu n'es pas rôliste.
Non.
Est-ce que ne pas jouer des personnages n'est pas un frein à les imaginer ?
Non, parce que j'ai toujours fait un vu un rapport entre le jeu de rôle et le cinéma, et comme je suis une mordue de cinéma, ben en fait ça me pose pas de problème. Et par contre, je sais ce qu'est le jeu de rôle, même si j'ai pas l'occasion d'y jouer. Je sais que les personnages ont besoin d'être incarnés par leurs joueurs. Et j'ai toujours vraiment mis en priorité le fait qu'il fallait que le personnage soit le plus fidèle possible à ce qu'on m'avait décrit par des lignes écrites sur du papier. Et il fallait que ça rende vraiment qu'il paraisse vivant, qu'il paraisse crédible en fait. Et ça apparemment souvent on me dit que c'est bien, donc voilà, je continue là-dessus.
Bah, ça fonctionne beaucoup avec ton style très organique justement, qui marche bien, qui est très précis. Et justement, lors des descriptions, alors peut-être encore plus dans la littérature fantastique, est-ce que à des moments on t'a retoqué un dessin en disant non, on est trop loin de la description, ou t'as pris trop de liberté avec la description qu'on t'a donnée ?
Non, jamais. Les seules choses qui sont arrivées, c'est très récemment, dans des illustrations pour un roman, les personnes avaient oublié de me dire que le personnage était asiatique, et moi, la description que j'en ai eue dans le roman, c'est qu'il était plutôt typé Asie, mais plutôt Inde, en fait. Et du coup, j'ai dû refaire le visage pour qu'il corresponde à ce qu'il devait être. C'était très particulier parce que j'ai lu au moins 150 pages du roman et il y avait très peu de descriptions physiques des personnages.
Là, tu as travaillé sur The Witcher chez Bragelonne, licence avec une fanbase énorme, que ce soit pour le jeu vidéo, pour la série, pour les romans. Est-ce que justement, il n'y a pas des gens qui t'ont dit « Ok, ton dessin il est mignon, mais ça ne ressemble pas du tout à ce que ça devrait être ». Des gens qui arrivent avec lui.
Non, j'ai jamais eu ce retour-là. Je pense que les gros univers comme ça sont très tolérants justement envers la manière dont on va les représenter. C'est un univers, s'il me semble, que je ne me trompe pas, qui a quand même des fanarts assez importants. Et puis, justement, c'était un des critères de validation de ma candidature. Enfin, je n'ai pas candidaté, on est venu me chercher, mais j'ai fait un essai quand même. L'éditeur m'a demandé si je connaissais l'univers et j'ai dit non, très peu. J'avais vu une cinématique à l'époque sur un jeu et puis la saison 1 de la série Netflix. Mais je connaissais très peu l'univers, j'ai jamais joué aux jeux vidéo par exemple.
Okay.
Et donc il m'a dit mais c'est très bien parce que tu ne seras pas influencé par les visuels et par la manière dont c'est déjà représenté. Et moi je venais plus avec mon bagage de autour des contes, justement les contes de Grimm et tout, ça me fascine depuis l'enfance. Et c'est des contes assez violents, assez. Enfin, il y a plein de références dans The Witcher, j'ai vu, qui sont en rapport avec des contes de Grimm. Par exemple, le fait que les parents de Ciri, son père, soit un homme hérisson, ça c'est inspiré d'un ancien conte des pays de l'Est. Et en fait, il y a plein de créatures comme ça qu'on retrouve dans les contes anciens. Donc ça, j'en étais familière. Et puis, le premier livre sur lequel on a travaillé avec Alain, donc avec Alain Pségur, c'est un manuel en fait qui est censé détailler au jeune sorceleur quelle va être sa vie, à quoi il va être confronté, etc. Donc c'est comme un précis à la fois de botanique, d'anatomie, des créatures et tout. Et ça, c'est ce que j'adore parce que justement, on rejoint le côté organique et tout ça. Et donc, c'est presque un. Il fallait vraiment que ça soit vivant, crédible. Ça, c'est des bouquins que j'aime depuis que je suis petite. Je sais pas si vous connaissez Les Gnomes de Rin Portlitt. C'est un livre en fait hollandais c'est un précis qui détaille en fait la vie des gnomes dans leur milieu naturel et tout. Mais c'est tellement réaliste que quand j'étais gamine, j'y croyais dur comme fer. Et c'est ça que je voulais rendre en fait chez le lecteur. C'est l'impression qu'on est confronté à du réel en fait.
Ouais, presque un livre de zoologie.
Exactement.
On a toute la description.
Ouais, il y a les potions, il y a les créatures, il y a les races, il y a l'armement, les lieux. Il y a plein de choses en fait. C'est une expérience très riche.
Ça peut aussi servir pour le jeu de rôle The Witcher d'ailleurs.
J'ai un ami qui s'en sert pour jouer au jeu de rôle The Witcher. Il se sert du manuel du sorceleur.
Parfait. Est-ce qu'il y a des licences ou des grosses franchises comme ça sur lesquelles tu dis j'aimerais tellement travailler là-dessus? Ou au contraire, certaines où tu voudrais pas travailler du tout?
Il y a une grosse licence que j'adore, c'est dans le jeu de société, c'est Zombicide.
Okay.
J'aurais adoré travailler pour Zombicide. Je sais pas s'ils font encore des. Parce qu'il y avait des guests en fait qui faisaient des sets de figurines. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais travailler.
Ouais. Ça peut être un gros kiff.
Ouais.
Parce que là, pour le coup, le dessin de Zombicide est
très peu réaliste.
Oui, c'est vrai.
Personnage.
Mais j'adore quand même. Ouais, c'est vrai, ouais.
Mais le côté organique crade, là, il y a.
Oui. Ouais. Par contre, il y avait eu. Il y a Paul Bonheur et Adrian Smith qui avaient fait des sets invités. Et Adrian Smith, lui, l'organique, ça, c'est son dada.
Et au contraire, du coup, est-ce qu'il y a des séries ou des choses où tu te dis non, ça, c'est vraiment trop loin de mon univers, je voudrais pas y aller?
Il y a un truc que j'adore, mais ça me fait peur parce que j'ai le sentiment que j'en suis pas capable, même si j'ai un peu flirté avec, c'est la science-fiction, enfin, je veux dire, tout ce qui est espace, vaisseau, etc. J'ai illustré un scénario alien pour Cassius Belli, mais comment ça s'appelle déjà quand c'est de la science-fiction, mais. J'ai oublié le terme en fait. Mais ils ont pas des tenues extraordinaires ou quoi, ça pourrait être.
Space opéra?
Oui, non, c'est pas space opéra, je crois pas. Mais,
quand c'est pas réaliste, tu veux dire?
Si, justement, c'est réaliste.
Alors,
ça sera
art, peut-être. Art
SF. Ouais, peut-être, SF, ouais. En fait, j'ai un amour pour la science-fiction des années 50-60, quand il y a un côté un peu vintage, rétro et tout ça. Ça, peut-être que je m'y collerai mieux. Enfin, surtout les vaisseaux, j'admire en fait ce que je vois au cinéma et tout, donc je me dis voilà.
Tu fais du véhicule
Ça m'arrive. J'en ai surtout fait pour le médiéval, mais bon, je travaille avec une énorme documentation à l'appui parce que je peux pas inventer comme ça. Puis souvent, ce qu'on me demande, c'est ça doit être y a un côté historique qui doit être. Qui doit être là, puis il y a certains rôlistes qui sont très attentifs aux moindres détails qui pourraient porter défaut. Donc il faut faire gaffe.
C'est clair. J'ai mangé ma question.
Moi, je parlais je parlais des anglo-saxons. Tu as travaillé pour Chaosium.
Oui.
Aussi. C'est pour la boîte d'initiation de Pendragon,
oui.
La dernière version,
oui.
Qui va d'ailleurs sortir en France par le studio Dead Crows.
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
Comment t'es arrivée?
Ben en fait, souvent j'ai de la chance et là c'était le cas. J'avais justement créé ma page ArtStation avec quelques extraits de mon travail et un jour j'ai un monsieur qui s'appelle David Larkins qui m'écrit et qui me propose du travail. Puis il me dit bah voilà, je travaille pour la société Chaosium, aux États-Unis et tout. Et je vais voir mon compagnon de l'époque, rôliste et illustrateur aussi, et je lui dis tu connais toi? Et bah, bien sûr. Et il m'a dit bah oui, accepte tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied chez eux. Et il n'est pas encore sorti, mais il y a un autre ouvrage Pendragon qui devrait pas tarder, je crois, normalement, avec un écran de Maître Dieu que j'ai fait.
Ah oui, quand même.
Wow.
Mais je sais pas quand est-ce qu'il arrive.
Et alors, comment ça se passe de travailler pour les Américains?
Ben, c'est comme travailler pour les Français, en fait. Oui, c'est pas différent. C'est le même processus, un brief, des formats à respecter parce que ça sera imprimé de telle ou telle façon. Ils sont très gentils. Enfin, moi, je trouve que l'univers du jeu de rôle en général, c'est peuplé de gens fort sympathiques. Donc voilà, ça change pas.
Comment ça se passe aussi quand t'as travaillé pour un jeu anglo-saxon et ouais. Que il y a une version française qui sort?
Ben en fait, j'étais pas au courant. Donc non. Parce que c'est eux qui possèdent les droits et qui gèrent leur affaire. Donc, mais par contre, j'étais à Kaisersberg. Non. Et non.
Financièrement, il n'y a pas de retour.
Il n'y a pas de retour.
Ah,
non. Non, pardon. Je pense que c'est dans les petites lignes. Enfin, après, c'est vrai que l'illustration, c'est comme n'importe quel métier où tu as ton entreprise. Il y a énormément de cordes à son arc à avoir et il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à maîtriser. Et moi, tout le côté droit, juridique, etc., ça m'échappe un peu. Mais mon contrat disait que j'allais être payée pour ce que je faisais. Après, le droit américain est différent du droit français. Il est moins bien. mais par contre, Dead Crows et moi, on a discuté ensemble à Kaisersberg en mai dernier et je pense qu'on collaborera sur des projets à l'avenir. Voilà.
Bah, très cool. Est-ce qu'il y a des projets justement, à moins que tu aies d'autres questions Non. Sur les projets à l'avenir, est-ce qu'il y a des choses dont tu peux déjà parler, des gros projets, des petits projets, des choses qui te font kiffer?
Oui. Je sais pas si je peux dire sur quel jeu c'est, mais je retravaille avec les 12 singes depuis deux semaines. Et puis avec Damien Coltis sur son projet Zombiologie. Ça fait un moment déjà qu'on a entamé le travail là-dessus.
Damien, que tu avais dû rencontrer
Oui, aussi Cassius, à l'époque chez Cassius, ouais. Il avait masterisé une partie de True Crime Chronicles.
Bon, ouais.
J'avais participé avec ma maladresse de débutante. Et puis sinon, j'en oublie peut-être. Je fais pas mal de commissions aussi pour les héroïstes qui auraient envie ou quoi. Ils n'ont pas toujours un gros budget, mais tout est négociable. Donc voilà, c'est l'important, c'est de faire plaisir et puis de pouvoir. Ça fait de la documentation pour mon book aussi, après tout.
Oui.
Donc là, on m'a demandé pour du Jesse Rae qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Black Book. Voilà, il y a une commission là-dessus. Et puis, j'en oublie certainement. J'ai des projets, mais qui sont tellement loin encore à venir que c'est pas non plus. Voilà, ça sert à rien d'en parler maintenant.
Ouais. Ok. T'as des projets d'illustration perso ou sur des univers que t'aimerais toi créer peut-être aussi ?
Eh ben, en fait, j'ai un projet perso. Maintenant, les projets perso, ça se met toujours très en arrière-plan de ce qui fait qu'on peut coûter, quoi.
Souvent moins rémunérateur, ouais.
Voilà, c'est ça. Bah non, parce que en fait, j'aimerais faire une exposition sur un thème. Dans ma tête, je l'ai prénommé Urbex, en fait, ce thème. Et j'aimerais travailler en collaboration avec des photographes d'Urbex pour repeindre leur décor, mais en incluant des silhouettes fantomatiques dans le décor. Parce qu'en fait, j'aime vraiment l'Urbex. Je trouve ça incroyable de la manière dont les choses restent figées dans le temps, mais en même temps, la nature reprend ses droits et le temps continue d'avancer. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me parle énormément. Puis, comme j'aime bien l'histoire du fantôme et tout ça, ça serait lié un peu, voilà, des tableaux assez grands avec des scènes comme ça contemplatives et un personnage fantomatique qui nous questionne.
Qui rajoute, ok.
Ça, c'est mon projet perso, mais sinon, à côté de ça, je fabrique toujours des créatures en volume, des trucs comme ça. Oui, j'aime bien. J'ai mes célèbres Cthou. Je fabrique des petites figurines.
En bocal, hein, c'est ça, Damien?
Pas forcément en bocal, mais c'est quand j'ai le temps, hein, donc c'est pas souvent, mais. Ça vient de l'époque où je fabriquais des petits jouets, des scénettes, en fait, justement dans l'univers un peu plus jeunesse, humoristique. Et donc, j'aime bien y revenir de temps en temps. Il y en aura, comment ça s'appelle déjà, Octogone.
Octogone.
Des Cthulhu.
Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut voir ce que tu fais sur les réseaux, un peu partout?
Le plus simple, c'est Facebook. Okay. Parce que les réseaux et moi, ça fait deux. Je suis pas très. En fait, c'est chronophage. Et puis, je suis pas douée pour communiquer. C'est une des cordes de mon arc qui fonctionne pas super bien. Donc, Facebook, j'y suis très souvent. La page ArtStation, il y a du retard, mais on peut m'y trouver aussi. Et puis j'ai un Insta, mais ça me sert plus à aller regarder les vidéos
les autres
des autres.
Que...
Voilà, c'est ça.
Ok.
J'avais une question.
Oui.
On est au Festival Cultissime.
Oui.
Et on t'a posé la question, quelles sont tes œuvres cultes?
Les œuvres littéraires? Ouais. Oui, on m'a posé la question. Ouais.
Donc il y avait les contes.
J'ai parlé des contes de Grimm, c'est ça. J'ai parlé de Akira. J'ai parlé de Yotsuba, c'est deux mangas que j'apprécie énormément. J'ai parlé de toutes les œuvres de Jodorowsky et Moebius parce que c'est vraiment une grande base pour moi. J'ai mentionné Stephen King évidemment puisque c'est avec Robert Howard l'auteur qui m'a donné envie de lire et qui m'a fait apprécier la lecture parce que j'étais rebelle étant gamine. Et je pense que c'est à peu près tout. Bon, évidemment, après, la liste est longue. Il y a Tolkien, il y a... Voilà. Ah, d'ailleurs, Tolkien, un des projets sur lesquels je vais travailler sera dans l'univers de Tolkien pour Bragelonne. Voilà.
Trop bien.
Toujours avec Alain?
Non, ça ne sera pas avec Alain. Non.
Ça se passe comment, votre collaboration avec Alain?
En fait, c'est sur le manuel du sorceleur, on avait fait un serveur Discord avec Pierrick, l'éditeur, sur lequel on échangeait nos idées, etc. On s'était eu au téléphone aussi pour que je sois la plus fidèle possible à sa vision des choses, puisque le manuel du sorceleur, c'est un récit indépendant. Donc Sapkowski a donné son autorisation pour qu'il écrive dans son univers et c'est comme ça qu'il a créé le truc. Et puis à chaque fois je lui posais des questions pour affiner un peu la vision que j'allais donner de ce qu'il avait imaginé, puis des choses qui existaient déjà aussi. Mais c'est une mine d'or d'informations sur le Witcher. Lui il connaît les jeux vidéo, enfin il est très très connaisseur de l'univers. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un point en commun, c'est qu'il écrit des romans jeunesse. Et du coup, en fait, il a un pied dans les deux également. Mais je pense qu'on est nombreux soit dans l'illustration, soit dans la littérature, à pouvoir comme ça, ou avoir envie de ne pas s'enfermer dans un seul univers, quoi. Ouais. C'est comme quand on fait du jeu de rôle, on n'a pas envie de jouer que dans un univers, généralement.
C'est clair. Mais on a effectivement des thématiques sur lesquelles on va plus souvent aller que
l'autre. Voilà,
que
c'est ça. Oui, on a quand même des préférences.
Quand t'as une table ronde tout à l'heure à 17h avec Alain Pessiguer, mais
oui,
aussi un cartographe.
Oui, Stéphane...